Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le quatrième de notre 11e saison. Bonjour aux auditeurs et bonjour à notre invité Jean-Louis Rio. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Alors monsieur Rio, vous êtes maire de la commune de Bages d'Aude, je précise, parce qu'il y a un Bages aussi dans les PO, et comme on couvre ce coin-là, il faut le préciser.
Tout à fait.
De Bages d'Aude. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est quand même essentiellement parce que vous êtes vice-président du Grand Narbonne, chargé particulièrement des transports, ou des mobilités, comme on dit maintenant. Et on va parler longuement de Citybus, ancien et nouveau, surtout le nouveau. Alors, les Citybus pour Narbonne, c'est le réseau des bus du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération. On est bien d'accord sur le choix des termes.
Tout à fait. Donc, pour parler donc de Citybus, l'organisateur des transports, c'est le Grand Narbonne qui en a la responsabilité. Sur cette responsabilité, sur les 37 communes, il est organisé les transports qu'on appelle urbains, donc bien évidemment à l'intérieur de la ville
donc
de Narbonne.
Donc ville de Narbonne intramuros, on va dire.
Et pour nos auditeurs, donc c'est bien de dire que dans l'urbain, on parle de bus. Et la grande différence avec l'interurbain, c'est-à-dire quand on est en dehors de la ville, c'est des autocars.
Oui,
la différence, c'est notamment une question de vitesse entre les véhicules. Il y en a qui sont limités à 50 km/h et d'autres qui peuvent aller au-delà. Et puis, dans les autobus, on peut voyager debout. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence qu'il existe entre les deux éléments, entre l'urbain et l'interurbain.
Sous-entendu, donc déjà, oui, absolument, vous avez raison. Et sous-entendu, dans un autocar, on ne peut pas voyager debout.
Absolument pas.
C'est interdit par la loi.
Toujours, et avec la ceinture de sécurité.
Oui, voilà. Donc c'est un distinguo important
à
rappeler. Alors, on va pas noyer les auditeurs sous les chiffres, mais enfin, il en faut quelques-uns. 39 communes, ça c'est le nombre. Mais nombre de véhicules, qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres, Jean-Louis Rio?
Oui, 37 communes, je me permets de
37, pardon.
De rectifier.
C'est vrai qu'on en a perdu quelques-unes et quelques années.
C'est cela. Donc aujourd'hui, c'est un gros réseau qui représente un peu plus, pratiquement 130 véhicules, 126 exactement, sans autocar, comme je viens de vous l'expliquer, donc sur leur réseau interurbain, et 26 autobus. La totalité des kilomètres, sans vous noyer sous les chiffres, ont pratiquement 2,8 millions, pratiquement 3 millions de kilomètres réalisés chaque année sur la totalité du territoire. Plus de 200 salariés sur le réseau Citybus. 4 800 000 personnes transportées sur une année. Voilà à peu près, en gros, sans vous noyer d'aller trop loin dans les détails, en gros ce que cela représente. Cela représente aujourd'hui un contrat en termes financiers, qui sur la précédente période, donc des 8 années qui viennent de s'écouler avec notre prestataire Keolis, qui était à environ 120 millions d'euros.
Par an.
Par an.
Oui, voilà.
Sur la totalité du contrat.
Sur la
totalité du contrat. Sur les 8 ans.
Sur 8 ans. Voilà, ce qui fait un peu moins de 20 millions par an. Alors.
Ça fait 14-15 millions par an.
Pardon, oui. Et à ce sujet, d'ailleurs, il faut savoir que, en tout cas chez nous, dans une aglo comme Narbonne, les bus sont tout à fait déficitaires. Est-ce qu'on peut donner un chiffre ou deux pour que le public comprenne
Tout à fait. Donc là, c'est quand même une particularité, si vous voulez, ou sur lequel on n'est pas forcément tous égaux sur le sujet. Un des grands financements du transport pour les collectivités territoriales telles que nous, c'est ce que l'on appelle le versement transport. Pour donner un ordre d'idée, donc on vient de parler de 14 à 15 millions du coût global, notre versement de transport, nous, est de 8 millions. Si je dois comparer, par exemple, à une grande métropole telle que celle de Montpellier, ils ont un coût de transport qui est aux alentours de 90 millions. Ils touchent 110 millions de versements de transport.
Oui, chez eux, c'est excédentaire.
Voilà, ce qui leur permet effectivement à un moment de passer le pas vers une gratuité totale. Mais nous, vous vous rendez bien compte que la différence qui doit être apportée entre ces 8 et 15 millions, eh ben, elle l'est par les habitants du Grand Narbonne.
Voilà, et voilà. Quand on a ces la chiffres région, en tête, sûr, on comprend mieux certaines réalités.
Tout à
ce
fait.
Versement transport est versé par les entreprises.
Par les entreprises.
C'est voilà. Ça.
Les sources de financement sont pas gigantesques. Hein. On a le versement de transport, donc pour environ 8 millions d'euros. On a la subvention de la région,
oui,
3 millions d'euros. On a l'aspect commercial. Vous savez que sur nos bus, nous avons des publicités,
oui,
nous avons un certain nombre d'éléments. Oui. Et puis, on a effectivement aussi toute la partie de vente de billets. Elle représente 1,3 million. Vous voyez que c'est pas par rapport à la globalité, c'est pas vraiment
oui,
pas la part la plus importante.
C'est donc une petite partie. À Narbonne, c'est une petite partie.
Voilà.
Il faut bien
le
comprendre.
Et le budget général du Grand Narbonne s'élève à pratiquement 2 millions.
Mmh.
Voilà, sur cette part-là. Je parle à aujourd'hui. Parlerons tout à l'heure de la DSP à venir, mais à aujourd'hui, les coûts sont ceux-là.
Oui. Alors justement, vous avez, Jean-Louis Rio, lancé alors le sigle DSP, qui veut dire alors, délégation de services publics. Ça veut dire que ces bus, ils sont exploités par une autre entreprise qui a été choisie par le Grand Narbonne.
Voilà. Si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pour nos auditeurs, une délégation de service public, on va pas parler de sigle, hein, mais une délégation de service public, c'est quoi ? Le Grand Narbonne qui a dans ses compétences la charge des transports, c'est-à-dire qu'elle doit, exactement comme le ramassage des ordures ménagères, elle doit organiser le transport, que ce soit dans sa ville principale, Narbonne, et que ce soit
sur toute la surface.
À ce titre, elle peut l'exercer soi-même. C'est-à-dire que le Grand Narbonne pourrait décider d'acheter ses autobus, de recruter son personnel et de faire fonctionner tout en régie, tel que ça pourrait l'être sur certains autres services.
Oui, certaines villes le font ou certaines
villes
le font.
La grande majorité sont exactement quand même comme nous, c'est-à-dire préfèrent aller chercher un délégataire. C'est là du nom de délégation, qui est une entreprise qui est privée, c'est une entreprise spécialisée dans les transports. En France, je pense qu'on peut dire qu'il y a trois grandes entreprises qui sont spécialisées en termes de transport. Nous avions Keolis, qui est une filiale de la SNCF. Nous avons RATP-DEV, qui, comme son nom l'indique, est une filiale de la RATP. Et nous avons l'entreprise Transdev, qui est une émanation de...
Des fonds de pension étrangers, canadiens.
Voilà.
Oui, voilà. Alors, à ce sujet, justement, vous dites l'agglomération a préféré. Pourquoi comment expliquer la préférence?
Alors, c'est un choix qui remonte pas aujourd'hui, si vous voulez. Il y a déjà eu deux délégations de services publics, donc 2 fois 8 ans qui viennent de s'écouler, sur lequel le choix de prendre un opérateur, c'est-à-dire que ça permet à l'agglomération de ne pas porter la charge financière intégrale, mais de la répartir. Donc, c'est le délégataire qui achète les bus et qui nous refacture les éléments en fonction de ce qu'on appelle un forfait de transport qui est établi davantage au nombre, pour faire simple, au nombre de kilomètres et au nombre de personnels transportés plutôt que de passer par une régie complète sur laquelle vous imaginez aujourd'hui le coût d'un bus, hein, si on devait acheter 126 bus, 126 autocars et 26 bus, le coût que ça pouvait représenter. Donc c'est des choses qui sont pas forcément supportables par une collectivité comme la nôtre, et donc le choix a été fait il y a déjà bien des années de ça, de passer pour cette option-là.
Alors voilà. Il y a le côté donc matériel, les bus et les cars, mais aussi le personnel.
Alors le personnel, bien sûr. En plus de ça, je dirais que l'avantage d'une DSP par rapport à très clairement ce qu'on appelle la régie, hein, pour les collectivités comme nous, c'est que on a affaire à des entreprises qui sont hyper spécialisées et qui, évidemment, ils ont une grande habitude des choses. À la communauté d'agglomération, on n'est pas forcément spécialisé sur tous les domaines.
Il y a quand même une foule de compétences différentes.
Voilà. On a, en même temps, j'ai parlé tout à l'heure des ordures ménagères, mais on a également la compétence sur l'eau et l'assainissement. On ne peut pas être spécialiste sur tout. Donc, à un certain moment, il faut être accompagné des entreprises privées qui sont spécialistes dans leur domaine. Et c'est le choix qui a été fait il y a déjà de nombreuses années et que nous avons à nouveau conforté sur ce mandat-là.
Oui. Alors, voilà maintenant une explication générale, généraliste qui sera, j'imagine, très utile pour les auditeurs. Jusque-là, donc, c'était l'entreprise Keolis, dont vous avez dit que c'était une filiale de la SNCF qui faisait le job, si je puis dire.
Bien sûr.
Bon, il y a eu un changement. Alors, comment les choses se passent, à quelles échéances? Essayez encore de nous expliquer simplement, Jean-Louis Rio, comment on change de délégataire et pourquoi peut-être aussi.
Alors, la décision n'est pas au départ n'est pas de changer la volonté de changer de délégataire.
C'est qu'il y a une échéance.
Voilà, on a une échéance. Notre échéance, elle a été donc au 31 décembre de cette année, c'est-à-dire que le contrat que nous avions avec, parce qu'il s'agit d'un contrat, une délégation de service public, c'est
oui,
un contrat.
On signe un contrat voilà, sur tant d'années.
Avec une entreprise. Les clauses sont définies largement à l'avance parce qu'on appelle un cahier des charges, bien évidemment, comme sur l'ensemble des consultations que l'on peut faire, que ce soit d'ailleurs dans le privé ou dans le public. Lorsqu'on arrive à la fin de cette échéance, et donc pour nous le 31 décembre, et donc bien en amont quand même, pratiquement un an avant, les services ici qui m'accompagnent, en la personne de Stéphanie Trani, qui est la directrice des transports sur l'agglomération, a travaillé sur le nouveau cahier des charges. Le nouveau cahier des charges, il devait prendre en compte un certain nombre d'éléments, qui sont les éléments factuels d'aujourd'hui, et puis les éventuelles possibilités de changement pour le contrat à venir. Ce cahier des charges est mis en forme et il est lancé un appel public à la concurrence, c'est-à-dire que là, on demande aux entreprises qui veulent répondre, de participer à cette consultation des entreprises.
Et ce cahier des charges, donc, il est établi par les fonctionnaires du Grand Narbonne chargés de ce secteur.
Voilà,
c'est leur tâche.
Oui, qui ont été également épaulés par ce qu'on appelle un bureau d'études, mais qui est un bureau d'études un peu spécialisé, qui s'appelle un assistant maître d'ouvrage. Et comme son nom l'indique, le maître d'ouvrage, c'est le Grand Narbonne. Donc, cet assistant vient nous prêter main forte. Et là aussi, ce sont des cabinets spécialisés qui travaillent sur toute la France sur ce type de marché. Ce cahier des charges ayant été élaboré en commun entre les services du Grand Narbonne et cet assistant maître d'ouvrage, il a ensuite mis en publicité donc nationale, voire européenne.
C'est-à-dire on lance ce qu'on appelle un appel d'offres.
Un appel public à la concurrence. Mmh. Voilà, un appel d'offres.
Oui, voilà. Donc c'est tout ce processus qu'il est intéressant de suivre. On va, Jean-Louis Rio, peut-être marquer d'abord une première pause et on va entrer un petit peu plus dans les détails tout de suite après la pause.